Le journal de Marceline Michon.
Bonsoir. Plus d'anglais et d'allemand à l'école secondaire jurassienne. La nouvelle grille horaire entrera en vigueur à la rentrée 2026. Le délai est serré selon le syndicat des enseignants jurassiens. 100 EPT d'au moins d'ici 2030. Dans l'administration jurassienne, les syndicats s'insurgent. L'incertitude gagne le personnel et les services à la population pourraient en pâtir. Des remous à Basse-Vendeline. L'élection d'un conseiller communal dimanche dernier fait l'objet d'un recours. De graves irrégularités sont pointées du doigt par le candidat battu. Averses éparses toujours possibles cette nuit. Demain, un temps couvert et sec et puis des éclaircies dès la mi-journée. Maximum 12 degrés en plaine, 9 à 1000 mètres. La grille horaire sera modifiée pour les élèves jurassiens du secondaire 1. À partir de la rentrée 2026, il y aura davantage d'anglais et d'allemand, notamment dans l'expression orale. Des cours d'économie pratique seront dispensés en 10e année. Quant aux options 1 à 4, elles vont disparaître au profit d'un choix entre latin, italien, activités techniques et mathématiques sciences. Le gouvernement jurassien a présenté le projet final ce matin. Invité du journal de 12h15, le ministre de la formation Marcel Courtet a insisté sur la nécessité de renforcer l'apprentissage des langues.
Les entreprises nous le disent aussi, on a ces retours. Quand on discute avec elles, les entreprises jurassiennes sont de plus en plus tournées vers le reste de la Suisse, donc l'allemand, et vers le reste de l'Europe et du monde. Donc dans ce sens, on devait donner aussi des réponses, et notamment en 11e, on a accentué sur la 11e, la dernière année scolaire, plus d'allemand, plus d'anglais, parce que on avait un peu de retard à ce niveau-là, donc on prend des mesures par rapport à ce qu'on avait constaté, et surtout plus d'oralité, parce que je crois que c'est vraiment là que le changement doit s'opérer, et le fait de permettre des classes par moment plus petites, avec une demi-classe par exemple, pour essayer de parler la langue, eh bien on pense que ça, c'est quand même vraiment ce qui est propre à notre société maintenant et ce dont on a besoin.
Le projet de réforme avait suscité beaucoup de réactions lors de la consultation. La nouvelle grille tient compte des remarques et semble être plutôt bien accueillie, même si les enseignants n'ont pas encore reçu le document définitif. Le secrétaire général du syndicat des enseignants estime que les délais de mise en place sont serrés mais réalisables. Christophe Girardin.
On a un délai qui est relativement court, on a un délai où il ne faudra pas perdre trop de temps, il faudra être efficace. Là, je fais confiance au service d'enseignement pour mettre en place les ressources qui seront nécessaires pour faire ça. Et puis, on a une grille horaire aussi qui est nettement moins changeante ou mouvante que ce qu'elle était prévue au départ, ce qui fait qu'on va pouvoir avancer sur un terrain connu, beaucoup plus que ce qui était prévu au départ, et donc on aura aussi un volume d'adaptation qui sera beaucoup plus restreint. Et ça, ça permet d'être optimiste pour une mise en place 1er août 2026. Maintenant, il y a besoin de discussion, de compréhension, mais aussi d'études spécifiques des éléments, des tenants et aboutissants, parce qu'on se rend bien compte qu'en modifiant un élément, on va modifier tout un processus, notamment de passage de degré, de passage de niveau ou d'option, par rapport aux nouvelles contingences. Et ça, c'est important de les communiquer, de pouvoir les accompagner et puis de trouver des solutions ensemble.
Dossier complet sur la nouvelle grille horaire pour les élèves jurassiens du secondaire 1 à retrouver sur rfj.ch. Les enseignants et autres employés de l'État qui pourraient être concernés par des coupes, le syndicat des services publics s'insurge contre la suppression de 100 EPT d'ici 2030, votée hier par le Parlement jurassien, conformément à la motion du PCSI qui a été adoubée par le centre et la droite. Le motionnaire Thomas Schafter s'est défendu de vouloir attaquer la fonction publique. Il estime que réduire la voilure permettrait aussi de redonner ses avantages sociaux aux fonctionnaires. Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le responsable régional du syndicat des services publics Jura, Thomas Sauvin.
C'est quand même un petit peu une drôle d'idée de vouloir valoriser le statut de la fonction publique en réduisant linéairement son poste sans savoir dans quel service, comment ça va se faire. C'est penser les choses à l'envers que de proposer ça comme ça. Je pense que c'est un petit peu populiste aussi de faire ça en année électorale, de montrer qu'on peut taper sur les fonctionnaires. Ça reste malheureusement encore populaire dans une certaine frange de la population et manifestement chez certains partis politiques.
Est-ce que vous craignez pour l'état moral du personnel de l'État qui se retrouve peut-être avec un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête?
Il y a quand même déjà de l'exaspération qu'on a entendu du personnel et cette incertitude, se dire mais est-ce que je passerai à la casserole, est-ce que je devrais réduire mon pourcentage de travail, est-ce que je vais perdre mon travail ou même mon service, comment sera-t-il réorganisé? On sait qu'on devra faire quand même les mêmes tâches avec 100 personnes en moins et ça c'est difficilement entendable pour la fonction publique et pour les syndicats qui les représentent.
Thomas Sauvin qui répondait à Jérémy Pignard. Il ajoute que le syndicat des services publics mènera des réflexions pour réagir et protester contre cette décision. Et la coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne s'inquiète aussi de la suppression de 100 EPT au sein de l'État. Ces coupes auront des conséquences sur les prestations délivrées à la population, avance la CDS dans un communiqué. Elle s'inquiète aussi du timing de cette décision à l'approche de l'arrivée de Moutier, qui mobilise fortement les services étatiques. Position à retrouver sur notre site internet. Lui va quitter le Parlement jurassien. Le député socialiste Loïc Daubler a présenté sa démission pour le 20 mai, selon une annonce faite ce matin. Après avoir effectué 3 législatures, l'actuel président du groupe parlementaire socialiste n'aurait pas pu se représenter aux élections cantonales de cet automne et entend transmettre le flambeau à de nouvelles forces. L'élu de Glovelier était également le colistier de Pierre-Alain Fridé lors des 2 dernières élections au Conseil national et pourrait lui succéder à Berne si la Joulot décidait de se retirer avant la fin de son mandat. Mais est-ce que cela intéresse Loïc Daubler? Sa réponse.
Oui, alors, de toute façon, je pense que quand on fait de la politique, que ça soit au niveau communal, cantonal, comme moi durant plusieurs années, forcément, on a de l'intérêt pour les thèmes au niveau national. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout une thématique qui est sur la table. On a eu les élections fédérales il y a à peine plus d'une année. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout une thématique. Et puis, on verra bien dans quelle configuration on se retrouvera le moment venu. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas du tout une thématique. Et puis, comme je l'ai dit, d'avoir aussi une pause dans l'engagement politique habituel au travers des mandats, je pense que ça me fera aussi du bien. Et puis, on verra par la suite de quelle manière je pourrais m'engager en politique pour servir les intérêts de la population jurassienne.
Loïc Daubler qui n'entend pas non plus se présenter au gouvernement lors des élections de cet automne. Au Parlement jurassien, c'est la députée ajoulotte Katia Lehmann qui lui succédera en tant que présidente du groupe parlementaire socialiste. La délégation du Québec qui achève aujourd'hui sa visite officielle dans le Jura comptait un prévôtois d'origine dans ses rangs. Sébastien Schneeberger est né à Moutier, puis a vécu à Reconvilliers. L'homme est élu à l'Assemblée nationale du Québec depuis 12 ans. Sébastien Schneeberger porte les couleurs de la coalition Avenir Québec, un parti fédéraliste de centre-droit. Il explique en quoi ses origines jurassiennes influencent sa vision et sa pratique de la politique au Québec.
Vous savez, au Québec, on a une histoire justement avec un mouvement souverainiste de longue date aussi. Alors, je sais que même M. le René Lévesque, là, qui était un des pères de la souveraineté chez nous, était venu à Delémont à l'époque. Moi, je ne fais pas partie de ce parti-là, mais moi, j'ai une approche beaucoup plus autonomiste, un peu comme dans le fond le Jura, parce que le Jura fait partie de la Suisse intégralement. Mais chez nous, justement, on a une particularité qui est la défense de la langue française. On est le seul territoire nord-américain qui parle français dans une mare anglophone. Alors, c'est sûr qu'ici, peut-être, vous n'avez pas ce sentiment-là, mais chez nous, de défendre la langue, c'est très important parce qu'on a vu la Louisiane, hein, en l'espace de 2 générations, le français s'est perdu complètement. Puis aujourd'hui, les jeunes parlent tous anglais.
La défense de la langue française, vue d'ici, on a un peu l'impression qu'au Québec, c'est vraiment une question qui transcende les différents courants politiques.
Oui, mais ça, c'est assez unanime parce que justement, on le voit, Montréal s'anglicise beaucoup avec le phénomène de l'immigration massive, ça s'est encore empiré, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas juste l'anglais, mais bon, toutes les autres langues. Généralement, les autres langues, ça ne cause pas vraiment problème parce que ces gens-là, ils vont apprendre l'anglais ou ils savent déjà l'anglais, mais ne vont pas nécessairement par la suite apprendre le français. Et c'est ça qui peut causer problématique et puis ça fait en sorte que maintenant, vous allez beaucoup dans certaines parties de la ville à Montréal, puis il n'y a presque plus personne. Les gens rentrent dans un café et les gens s'adressent à vous en anglais. Là.
Sébastien Schneeberger au micro de François Comte. L'élection d'un conseiller communal à Basse-Vendeline est remise en cause. Le candidat battu a déposé un recours administratif. La rédaction de RFJ a pris connaissance de ce courrier, transmis par erreur à la chancellerie d'État, puis transféré au juge administratif du tribunal de première instance. C'est l'autorité compétente. Dimanche dernier, Alain Wolfer de l'Entente villageoise a été élu par 218 voix contre 105 pour l'indépendant Marcel Feulpin. Marcel Feulpin qui pointe du doigt de graves irrégularités dans la tenue du vote par correspondance, Nancy Chapuis.
Marcel Feulpin a déposé un recours administratif contre les conditions d'organisation et de déroulement du scrutin en raison d'irrégularités graves. Le candidat perdant rapporte notamment que l'urne de vote par correspondance a été remplie et scellée sans la participation ni la supervision du bureau électoral. Le maire de Basse-Vandeline regrette que ce scrutin soit mis en doute alors que le score est assez net. John Moser assure que les autorités et l'administration communale se mettront à disposition de la justice. Il précise qu'avant la tenue de l'élection, les affaires communales ont été sollicités pour faire le point. Julien Buchwalder, collaborateur du canton du Jura, confirme qu'il s'est rendu à Bonfol le vendredi, soit deux jours avant, pour assister à la séance sur les bonnes pratiques à adopter lors de votation avec la présidente du bureau de vote. Il a d'ailleurs constaté ce jour-là que l'urne était scellée et que tout était fait selon les dispositions légales relatives à la loi sur les droits politiques.
Marcel Feulpin demande dans son recours l'annulation ou à tout le moins la suspension des effets du scrutin. Les citoyens de Plaigne ont rendez-vous en assemblée communale ce soir. Il s'agira de voter le nouveau règlement communal relatif aux redevances sur la consommation d'électricité et de voter une dépense de 30 000 francs pour la réfection de deux ponts qui appartiennent à la bourgeoisie. Rendez-vous à 20h à l'épicentre. C'est une petite musique que rappelle souvent la ministre suisse Karine Keller-Sutter. La Confédération a mal à son porte-monnaie. Dans le même temps, les entreprises et assurances sociales de la Confédération ont produit un bénéfice de plus de 11 milliards de francs l'année passée. Il ne faut pas tout mélanger, assure l'administration fédérale. Les explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Tous les voyants financiers fédéraux ont bouclé au vert en 2024. La Caisse fédérale présente un compte équilibré et même avec un boni de 1,7 milliard grâce au fonds. Mais avec la hausse des dépenses pour l'armée et l'AVS, ça va singulièrement se gâter. Les assurances sociales sont en pleine forme. Grâce à la hausse de 0,4 points de TVA, l'AVS boucle avec un excédent positif de 3 milliards, l'assurance chômage avec plus 1,3 milliard. Les entreprises qui appartiennent à la Confédération vont très bien, elles aussi. Plus 1,5 milliard pour Swisscom, plus 300 millions pour La Poste. La holding Confédération boucle ainsi l'année 2024 avec un bénéfice de 11 milliards. Et c'est sans compter avec les 80 milliards de profits de la Banque nationale. Deux avertissements sont lancés par l'administration fédérale. Ces résultats doivent être lus et compris pour chaque entité. Pas question de transférer du bénéfice d'une institution à l'autre. Et d'importantes nouvelles dépenses sont en vue pour renforcer la sécurité de la Suisse ou pour la 13e rente AVS.
Vous nous écoutez peut-être sur la route, c'est le départ des congés de Pâques. Un bouchon de 11 km s'est formé cet après-midi à l'entrée nord du tunnel du Gothard. Les vacanciers devaient supporter un temps d'attente d'environ 1h50, estime le TCS. Pour les prochains jours, fête de Pâques oblige, les spécialistes s'attendent à un trafic très important comme chaque année au Gothard. Même si la météo maussade devrait refroidir les ardeurs de quelques vacanciers, la route par le col du Gothard restera fermée. Et enfin à l'étranger, de nouvelles frappes israéliennes ont coûté la vie à au moins 40 Palestiniens aujourd'hui dans la bande de Gaza. Des tentes de déplacés qui ont trouvé refuge dans des camps de fortune ont été visées, a indiqué la défense civile locale. L'armée israélienne n'a pas commenté ces frappes. Israël qui maintient l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Merci beaucoup pour votre écoute. Bon week-end de Pâques.